la sphère neuro. Célia Maurès sur Nutri Radio.
Célia Maurès sur Nutri Radio. Célia Maurès sur Nutri Radio. Je le répète deux fois pour bien apprécier. Ça y est, j'ai appliqué les méthodes de pleine conscience de Célia Maurès après le décryptage de la semaine dernière. Maintenant, je prends le temps d'être là, vraiment là. Et même si on est en distanciel, Célia Maurès, avec tous les auditeurs d'ailleurs, on est tous logés à la même enseigne finalement. On est là, ensemble, pour passer un bon moment. Comment allez-vous ?
Ça va très bien, et vous Fabrice ?
Ça va, je prends mon temps aussi pour répondre maintenant, parce que la pleine conscience marque aussi un temps, un certain temps, pas d'enchaînement. On prend le temps. Bon, en radio, c'est très vite chiant quand même. Hein. Non, je rigole. On va parler des systèmes alimentaires et des pathologies actuelles, les liens. Vous êtes intervenu au SIA sur le stand de Bleu Blanqueur il y a quelques temps en tant qu'ambassadrice. Bravo, Célia Maurès. Ils ont bon goût aussi chez Bleu Blanqueur. Quels sont les liens donc entre nos systèmes alimentaires actuels et les pathologies du siècle ? Vous êtes intervenu là-dessus et vous voulez donc profiter pour partager tout cela au plus grand nombre, on va dire.
C'est ça, tout à fait, parce que je pense que c'est une importance capitale. On ne se rend pas compte qu'il y a vraiment un lien entre les deux. Alors, dans cette première partie d'émission, j'ai surtout parlé effectivement de notre régime alimentaire, ce que nous mangeons actuellement. Alors, dans les articles que j'ai lus, justement, où ils font le lien entre les régimes alimentaires, nos systèmes alimentaires actuels et les pathologies actuelles qui sont de plus en plus prépondérantes dans la société. Alors, ce que j'appelle pathologie actuelle, ça va être évidemment le diabète, l'hypertension artérielle, tout ce qui va toucher le cholestérol, mais aussi l'obésité, etc. Donc, finalement, les pathologies qui sont en train d'être soignées et qui posent actuellement un problème. Alors, dans les articles, ils parlent de notre régime occidental. Bon, c'est pas forcément un terme que j'aime, mais ça va permettre de mieux comprendre. C'est-à-dire qu'ils font un lien, et là, il y a un lien important qui fait entre ce que nous consommons, ce que nous mangeons, et notamment, par exemple, la consommation trop importante. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus du tout en consommer, j'insiste bien sur ce fait-là. C'est plutôt une balance en termes de quantité. C'est-à-dire que c'est pas le fait de consommer, parce que je vais parler des fast-foods, c'est pas le fait de consommer de la nourriture fast-food ultra transformé qui pose problème, c'est la quantité de ce type d'alimentation qui peut, à la longue, évidemment, poser problème. Hein, je rappelle qu'un hamburger, un fast-food de temps en temps ou un aliment ultra transformé de temps en temps, c'est pas grave. Ce qui est plus ennuyeux, c'est si cette alimentation ne devient que celle-ci et qu'on oublie de s'alimenter sainement. Alors, il a été montré quoi ? Que cette consommation de fast-food, c'est là où ça va impacter effectivement l'apparition des maladies actuelles. Ça va augmenter l'apparition du diabète, de l'hypertension artérielle, de l'obésité, créant même une résistance à l'insuline. C'est ce qui est montré effectivement dans les études. Évidemment, un apport kilocalorique beaucoup plus important, avec peut-être actuellement, par rapport à une certaine époque où on devait chasser pour se nourrir, évidemment une diminution des dépenses énergétiques. Il va y avoir notamment une augmentation de la quantité d'acides gras. Alors, on dit que le gras, c'est la vie. Oui, les gras, notamment les acides gras polyinsaturés, comme les oméga-3, etc. Mais les acides gras saturés, en tous les cas transformés, posent problème. Alors, les acides gras saturés, il en faut quand même. Mais les acides gras ultra transformés, là, ça va poser problème. Et malheureusement, ce type de nourriture apporte plus de ce type d'acides gras, de ce type de lipides, que, effectivement, des polyinsaturés. Donc, ça va augmenter effectivement, ça va diminuer aussi malheureusement l'apport en micronutriments. Or, on a besoin de micronutriments pour fonctionner correctement. Pour ceux qui avaient suivi l'émission que j'avais réalisée sur l'impact de la nutrition sur nos performances intellectuelles, en fait sur le fonctionnement de notre cerveau, on sait que les micronutriments sont utiles, les vitamines, le magnésium, effectivement, le zinc, pour un bon fonctionnement du cerveau, mais aussi pour que nos neurotransmetteurs, nos hormones du cerveau, finalement, qui sont impliquées dans notre bon fonctionnement cérébral, dans notre attention, notre mémorisation, notre prise de décision, puissent être synthétisées. Donc, s'il y a une baisse des micronutriments, on va être en manque, on va être en carence, et ça va avoir des répercussions. On va avoir notamment des répercussions au niveau du microbiote, donc moins de diversification alimentaire, problème effectivement d'apport alimentaire, on va avoir un problème de microbiote avec une diminution de la diversité du microbiote, et on sait que un microbiote qui n'est pas diversifié, ça peut provoquer certains types de maladies, et au-delà de celles qu'on a citées en début d'émission, obésité, hypertension artérielle, diabète, etc., il y a aussi les maladies comme les, en santé mentale, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ce phénomène-là, les maladies neurodéveloppementales comme l'autisme, mais aussi les maladies neurodégénératives comme tout ce qui est maladie d'Alzheimer, Parkinson, etc. Et ça va aussi donc toucher un microbiote qui est un mauvais microbiote, va-t-on dire, pas non diversifié, va évidemment toucher notre système nerveux entérique, qui est le système nerveux de notre tube digestif. Donc, évidemment, ça va impacter le cerveau, puisqu'il va y avoir des choses qui vont monter au cerveau, une inflammation de bas grade, comme on appelle ça. Les médecins appellent ça comme cela, et qui va évidemment causer toutes ces... ces pathologies. Donc, c'est effectivement un changement du mode de vie. En plus, il faut savoir que du coup, on va être en insuffisance de consommation de fibres et d'oméga 3, ce qui évidemment va poser problème lorsqu'on connaît l'importance de la consommation d'oméga 3. Et on va avoir aussi, en consommant trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3, hein, c'est ça la balance qui va être, qui ne va pas être une bonne balance, parce qu'il y a un ratio oméga 6 oméga 3, il faut des oméga 6, mais il faut qu'il y ait un ratio correct avec les oméga 3, ça va évidemment augmenter tout ce que je viens de dire, et donc augmenter l'apparition de ces pathologies. Et notamment, on va avoir dans ce type d'alimentation ce phénomène d'acide gras plutôt en vers la consommation d'acide gras saturé, mais aussi des changements au niveau de ce qu'on appelle la charge glycémique des aliments, avec une pauvreté en micronutriments, d'où le fait d'apparition de ces maladies. Et c'est ça qui est un problématique, donc ça va être effectivement, on le verra en dernière partie d'émission, que faire justement pour remédier à cela et éviter bien évidemment, en prévention du moins, essayer de faire en sorte que les personnes ne tombent pas malades. Ça ne veut pas dire qu'elles ne tomberont pas malades, mais il vaut mieux toujours prévenir que guérir, et il y a quand même des choses à faire et qui sont très facilement, qui peuvent être très facilement mises en place.
On va voir ça dans un tout petit instant. On va également parler de l'impact du mode de production alimentaire. C'est dans cette émission incroyable, la sphère neuro, avec la non incroyable, Célia Vorès. On s'en mêle les pinceaux, Célia, on s'en mêle les pinceaux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous êtes toujours habillé en noir là, en distanciel ?
Toujours habillé en noir en distanciel.
Bon, je reprécise parce qu'il faut donner des images aux auditeurs qui écoutent la radio, que ce soit sur le live ou en podcast. L'imagination est... Alors, je vais vous décrire Célia Vorès pour que vous l'ayez bien en tête. À peu près 1m85 déjà, on peut le dire. Célia, plutôt blonde, plutôt... Bon, allez, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la suite de cette émission. Dans un instant, restez avec nous.
La sphère neuro, Célia Vorès sur Nutri Radio.
Célia Vorès sur Nutri Radio, d'ailleurs en vous écoutant, moi je passe à l'action, je me lève parce qu'il ne faut pas être sédentaire non plus, et c'est important. Parfois on reste des heures assis et on ne se rend même pas compte que ça fait déjà des heures, ça a un impact sur la santé.
Ah, totalement, oui, c'est vrai que souvent quand on travaille justement devant, parce qu'on travaille beaucoup sur l'ordinateur, enfin certains métiers qui demandent à travailler sur l'ordinateur, quand on est concentré, etc., on oublie de se lever, on oublie qu'il faut peut-être justement arrêter de rester que devant son ordinateur, mais faire des pauses en marchant un petit peu, parce que ça va avoir un impact.
Marchez beaucoup, vous marchez beaucoup, c'est bien.
Je marche beaucoup, oui. Moi, j'essaye de tout ce que je peux faire à pied, je le fais à pied, parce que justement, je ne fais pas de sport, j'ai pas le temps d'aller à la salle, puis ça serait trop compliqué. Donc, je me dis, ben voilà, ma manière de faire du sport, c'est bon pour la santé. Je marche, je m'aère, je prends l'air. Et ça, c'est important, parce que effectivement, sinon, on est très vite de mauvaise humeur. D'ailleurs, on n'est pas bien, on est fatigué.
Ouais. On le paye. Alors là, on parle aujourd'hui des systèmes alimentaires et des pathologies actuelles. D'ailleurs, il y a un lien avec la sédentarité et puis le développement de différentes maladies chroniques notamment. Là, vous avez parlé de l'impact de nos régimes alimentaires sur la santé, notamment l'importance aussi d'avoir un bon microbiote. Et donc, on s'était dit qu'on allait voir maintenant, avant d'aborder les solutions, qu'est-ce qu'il faut faire, l'impact du mode de production alimentaire sur notre santé.
Alors totalement, alors ça c'est quelque chose, bien sûr vous en avez conscience, on dit toujours, si on s'alimente bien, qu'on a de bons produits, c'est bon pour la santé, qu'il faut faire attention à ce qu'on consomme. Mais avant d'aller finalement au SIA avec Bleu Blanc-Cœur et de pouvoir participer à cette table ronde avec d'autres personnes, avec notamment une personne qui avait une ferme laitière, donc un agriculteur, etc., donc du monde finalement qui connaît bien ce monde rural et le monde de production alimentaire, je pense que même moi, qui m'étais un petit peu éveillée au sujet, je ne m'en étais pas rendu compte. C'est-à-dire qu'il y a un vrai lien entre la manière que nous avons de produire les aliments et effectivement, et ce que nous allons mettre dans l'assiette. Et c'est toute la démarche finalement Bleu Blanc Cœur, c'est de se dire, on a une démarche Bleu Blanc Cœur One Health, c'est-à-dire qu'en fait de globalité de la santé, et que c'est pas juste de dire aux gens, bah oui, il faut manger des fruits et des légumes, oui, il faut manger de la viande, oui, il faut manger du poisson, parce que dans le poisson, il y a des oméga 3, enfin dans le poisson gras, il faut manger des fruits et légumes pour apporter les antioxydants, etc. Au-delà de ça, il y a quels sont les types de fruits et légumes que nous allons manger, comment est-ce qu'ils ont été produits, et là ça va être important et impactant. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'il y a ce côté, il faut nourrir une population qui est grandissante, mondialement grandissante, donc ils sont arrivés à faire de la production agricole, parfois, dans certains pays, dans certaines structures, dans certaines conditions, un petit peu en surproduction, et ça va poser problème. Donc déjà, il y a le problème de gaz à effet de serre. On ne se rend pas compte que ça va avoir un impact effectivement sur l'aliment que nous allons consommer. Le fait qu'il faille prendre soin du sol. Plus un sol est en bonne santé, et malheureusement, c'est pas toujours le cas. Cela dû à des cultures intensives. Ça peut être dû à ça. En tous les cas, le spécialiste qui était là côté agriculture, c'est ce qu'il a expliqué. Donc, effectivement, j'avais lu ça dans des articles, mais là, j'avais quand même accès à quelqu'un de terrain et qui expliquait comment ça pouvait se passer. Effectivement, une dégradation du sol va impacter, évidemment, les micronutriments qu'il va y avoir dans les fruits et légumes, va impacter aussi les vaches qui vont aller brouter l'herbe ou qui auront été nourries autrement. Donc, et évidemment, cela va avoir un impact sur notre santé. Il y a quelques années, il y a un sociologue, Poulain, qui disait « Nous sommes ce que nous mangeons ». Alors, très loin de l'idée il y a encore plus longtemps, de dire « Je vais manger tel animal pour avoir sa force ». C'est un petit peu ce qu'on voit dans les films, lorsque les gens se transforment comme s'ils se transformaient en l'animal parce qu'il prenait sa force. Donc là, c'est quelque chose de très imagé et très, on va dire, romancé. Mais effectivement, on est ce que nous mangeons. Il n'y a qu'à voir le problème de la contamination des poissons au mercure. On nous dit qu'il faut manger des poissons gras avec des oméga 3, etc. Mais attention, actuellement, certains poissons sont contaminés au mercure. Or, si on mange trop de ces poissons contaminés au mercure, on va nous-mêmes être contaminés au mercure. Donc, si on mange des aliments qui ont été contaminés ou qui n'ont pas tous les micronutriments qui sont nécessaires, ça va aussi impacter notre microbiote, ça va aussi impacter notre santé. Donc, effectivement, ça, c'est un point important. Donc, perte de la diversité des cultures. Ça, c'est un autre point important, c'est que souvent, on fait des cultures intensives d'une chose. Alors qu'avant, il y avait peut-être plus de diversité sur un même sol, de diverses cultures, et là, ça enrichissait le sol. Et c'est ça qui était bien, le microbiote, c'est ça. Il y a aussi le fait que, malheureusement, il y a au niveau donc du mode de production, il y a le fait qu'il y ait les volailles pondeuses, l'importation de certains produits, notamment de certains morceaux de viande pour faire les hamburgers, parce qu'il n'y a que certains morceaux de viande qui vont être utilisés, donc c'est ce qui était dit dans l'article. Il y a aussi le problème lié à la déforestation, c'est-à-dire les conséquences de la déforestation qu'il peut y avoir. Alors, on pense à l'huile de palme, mais il y a des problèmes de déforestation parce qu'on prend la marge finalement sur la nature, mais ça peut conduire à un rapprochement des espèces sauvages vers la civilisation. Et par exemple, ce qui était montré dans cet article-là, qui est assez récent, je crois, 2023 ou 2024 de souvenir, il disait que cette déforestation, ce problème de rapprochement des espèces sauvages vers la civilisation, augmentait effectivement le risque de zoonose. Zoonose, c'est les maladies transmissibles de l'animal à l'homme et notamment des animaux sauvages. Donc, on voit bien effectivement les problèmes que cela peut avoir. Le fait d'utiliser des pesticides, mais pas seulement, transformation, dégradation, les cultures intensives, les conditions d'élevage, le fait d'avoir des animaux qui vont être, pour avoir des animaux à bas coût, donc pas forcément traités de manière correcte, ou ne pas avoir dans son alimentation ce qui est nécessaire pour que nous, on puisse nous-mêmes effectivement en bénéficier. Et notamment, effectivement, il vaut mieux un animal qui va brouter de l'herbe, parce que l'herbe contient du microbiote, ça vous ne le savez pas, donc je remercie l'agriculteur qui m'en a parlé. L'herbe contient du microbiote, donc ça va aider à la diversification de notre microbiote.
L'herbe contient du microbiote ?
Alors effectivement, quand les vaches broutent de l'herbe, en fait, ils m'ont parlé autour de la table ronde qu'il y avait, donc faudrait peut-être vous voir comment aller plus à même sur ce domaine, qui n'est pas mon domaine de prédilection, hein, tout ce qui est production agricole. Là, je sors un peu de ma zone de confort, mais c'était juste pour faire effectivement le lien avec les pathologies.
Bien sûr qu'ils l'ont pas fumé, l'herbe, quand ils ont dit ça.
Non, mais je pense qu'en fait, effectivement, l'herbe a des choses dedans dont on va avoir besoin. Et il faisait le parallèle entre la vache qui allait vraiment se nourrir d'une bonne herbe, d'un bon sol et de l'herbe, et d'avoir tout ce qui est nutriments, tout ce qui va être important pour la vache au niveau de cette consommation d'herbe et de nourriture, pour qu'elle elle-même puisse être en bonne santé, par rapport au fait de donner maintenant dans certains peut-être élevage, on va dire, et notamment dans certains pays où il y a certainement moins de contrôle qu'en France, ça va être de donner une alimentation plutôt de maïs, de soja, etc., et qui n'est pas de l'herbe. Donc forcément, ça va impacter le microbiote de l'animal et probablement aussi notre microbiote. Donc on voit tous les ricochets que cela peut avoir. Donc le point principal, c'est effectivement de faire attention à nos modes de production, de prendre soin de notre planète, parce que je pense qu'en prenant soin, sans vouloir aller dans ces aspects ultra écologiques, mais en prenant soin de notre planète, du sol, etc., en faisant attention à nos ressources naturelles, forcément on aura des bons fruits, de bons légumes, des animaux en bonne santé. Et lorsque nous allons les consommer, forcément, on va bénéficier de l'apport de ces micronutriments, de l'apport, effectivement, des macronutriments aussi qu'il y a dans la viande, etc., de tout ce qu'il va être nécessaire à nous-mêmes avoir un bon microbiote et aussi nous-mêmes avoir ce dont notre corps nous réclame pour être en bonne santé.
Alors, Célia, on a des résultats de notre petite équipe d'enquêteurs qui revient avec des informations concernant l'herbe et le microbiote. Ce sera aussi dans un instant la suite et la fin de cette émission. Vous n'avez pas dit n'importe quoi, je vous le dis, c'est moi qui vous taquine, mais ce que vous avez dit est très pertinent, ça on le sait. On y revient dans un instant. Ça va, vous serez toujours là dans 2 secondes, Célia ?
Oui, bien sûr.
Allez, c'est le retour de la musique tout de suite.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Alors je dis retour de la musique tout de suite, si vous êtes sur le live, parce que si vous êtes en podcast, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ? La musique du générique, oui, mais ça passe très vite, on revient donc avec Célia Morès qui aujourd'hui nous parle différents systèmes alimentaires et des pathologies actuelles, les liens entre par exemple nos régimes et le lien sur notre microbiote, ça on le sait, donc sur notre santé, l'impact du mode de production aussi alimentaire qui va jouer sur notre santé avant de nous donner quelques solutions, quelques pistes d'action et donc de prévention. Vous aviez parlé juste avant la pause et relié cette information en me disant « Mais oui, mais l'herbe, elle a un microbiote. » Et je vous ai dit « Mais attendez, est-ce que c'est quoi cette information ? Ça m'intéresse, ça nous intrigue. » Et donc, les enquêteurs ont enquêté, les investigations ont été investiguées, les recherches ont été recherchées et donc l'herbe, elle héberge un microbiote, évidemment, qui joue un rôle crucial dans sa croissance et dans la résistance aux maladies et donc son adaptation à l'environnement. Il y a un impact de la qualité de l'herbe consommée par la vache, un impact même majeur sur sa santé, sur sa digestion et sur sa production de lait ou de viande et donc sur la qualité des produits dérivés. Voilà qui va dans le sens de tout ce que vous nous avez dit. La qualité de l'herbe, très importante. Le microbiote de l'herbe, très important pour ensuite faire une chaîne alimentaire correcte pour qu'on puisse bien s'alimenter et donc avoir finalement, nous on est en fin de chaîne, même si on a l'avantage d'être en haut, eh bien d'être impacté carrément. Là, si on se penche sur ces questions, je peux vous dire qu'on ne mange plus rien parce que les sols aujourd'hui, la qualité des sols et le bol nutritionnel, on l'a bien vu, il est très très appauvri quand il n'est pas dangereux.
Alors effectivement, maintenant il y a des choses à mettre en place. Moi, je suis partie prenante un petit peu, comme on le dit effectivement, chez Bleu Blanc Cœur, mais il n'y a pas que nous qui le disons. C'est effectivement que tous les maillons de la chaîne, donc de l'agriculture jusqu'à nous qui allons consommer, on puisse effectivement travailler ensemble pour être sûr d'avoir, parce que si on a de bons aliments, que les animaux, comme vous venez de dire, sont en bonne santé, que il n'y a pas de souci, on va apporter à notre corps ce dont il a besoin et en tous les cas, pas de choses nocives. Alors déjà, ça va être quoi ? Ça va être effectivement d'avoir une agriculture qui offre une production de qualité en faisant attention à la santé du sol, aux conditions d'élevage des animaux, ça va être un point impactant. Ça va être aussi peut-être de revenir à une diversité diversité des cultures, hein, au lieu de se centrer sur faire seulement qu'une seule type de culture, mais peut-être avoir un sol qui contient plusieurs cultures. Alors, il ne s'agit pas de tout mélanger, mais en tous les cas, les agriculteurs connaissent bien le problème pour essayer de diversifier effectivement les nutriments dans le sol, d'avoir un sol en bonne santé. Effectivement, c'est prendre soin du sol pour justement augmenter la disponibilité des aliments, des nutriments. Ça va être aussi notamment de faire de la rééducation alimentaire, c'est-à-dire d'apprendre aux gens à diminuer la consommation d'aliments ultra transformés, voire peut-être à en proposer moins en grande distribution. Ça ne veut pas dire les enlever, mais en proposer moins et avoir des rayons peut-être un peu plus fournis en produits bruts. Ça va être aussi d'avoir, au lieu d'avoir cette vision très analytique en disant, on a besoin de micronutriments, de macronutriments et de rester sur ces recommandations-là, mais plutôt de voir les associations, la capacité des aliments de s'associer entre eux, les associations pour une bonne alimentation. Ça va être justement de peut-être prioriser certains types d'alimentation qui nous sont nécessaires. Les légumineuses qui sont abandonnées depuis des années et qui pourtant ont des apports non négligeables en certains micronutriments, etc. et même en protéines, ça peut être important. Ça va être aussi le fait d'augmenter l'apport en oméga 3. Alors comment faire? C'est justement, et ça c'est je pense quelque chose de très bien. Les personnes, les agriculteurs qui sont dans la démarche Bleu Blanc Cœur le font, mais peut-être que ce ne sont pas les seuls. C'est évidemment apporter dans l'alimentation, par exemple, des animaux, justement un apport en oméga 3. Alors, comment est-ce qu'on apporte un apport supplémentaire en oméga 3 pour ces animaux-là? C'est en les nourrissant, par exemple, avec des graines de lin. Donc, ces animaux vont avoir un apport en oméga 3 important. Et nous, lorsqu'on va consommer ces aliments-là, on va nous-mêmes avoir un apport important en oméga 3. Plus important du moins en oméga 3. Or, c'est important parce qu'aujourd'hui, il a quand même été montré, il semblerait en tous les cas, qu'il y a quand même 95% de la population qui n'est pas effectivement un apport suffisant en oméga 3, serait un petit peu carencé en oméga 3, même quand on consomme du poisson, etc. Je ne parle pas des gens qui ne s'alimentent qu'en aliments ultra transformés, mais même en ayant une alimentation équilibrée, il y a un manque d'apport en oméga 3. Donc, si les animaux ont consommé des graines de lin, ça a augmenté l'apport en oméga 3 et nous-mêmes, lorsqu'on va consommer cet animal-là ou les œufs, par exemple, on va avoir un apport d'oméga 3 supplémentaire qui sera intéressante pour la santé. Ça, c'est un point important. Prioriser les légumineuses, apport en fibres en oméga 3 et en antioxydants, effectivement, faire le lien entre tout, apporter dans l'alimentation des animaux effectivement des oméga 3, notamment via les graines de lin. Et c'est vrai que je suis ambassadrice Bleu Blanc Cœur, mais c'est vrai qu'il y a eu des études qui ont été menées dessus. J'ai des tas d'études cliniques qui ont pu être menées, enfin des petites études qu'ils ont menées notamment sur les liens entre oméga 3 et effectivement certaines maladies qui pouvaient apparaître, etc. Et on voit bien que lorsqu'il y a eu cet apport supplémentaire, les gens étaient apparemment en meilleure santé. Enfin, ils ont eu de beaux résultats. Donc, c'est qui prouve bien que ce n'est pas juste anodin, que ce n'est pas une idée en l'air et qu'effectivement, un animal bien nourri, c'est un homme et ou une femme, pardon, bien nourri et en bonne santé. Ça va être aussi de raccourcir peut-être les circuits d'approvisionnement lorsque cela est possible. Ça va être aussi de renforcer, ça c'est très important, la traçabilité des produits. C'est-à-dire, moi, je veux savoir quand je consomme, d'où ça vient. Est-ce que mon poulet vient de France? Ou est-ce qu'il vient de je ne sais trop quel pays et que je ne sais pas comment a été élevé ils ont été élevés et que peut-être je vais consommer du poulet en batterie élevé aux hormones et c'est pas ça que je veux. Moi je veux un poulet qui a été élevé en plein air parce que justement il va être meilleur pour moi, quitte à en manger moins, mais au moins que ce soit bon pour la santé. Donc renforcer la traçabilité des produits du début jusqu'à la fin de la chaîne. Je pense que ça c'est très très important qu'on puisse savoir en tant que consommateur d'où ça vient. Libre à nous après de consommer ce qu'on veut, mais d'où ça vient justement parce que peut-être de savoir aussi comment est-ce qu'ils ont été élevés, comment est-ce qu'ils ont été nourris pour en savoir plus et prendre sa décision en toute conscience.
Et on revient du coup sur cette importance de la pleine conscience et vous parlez du poulet aux hormones par exemple. Vous savez que c'est Roger qui travaille dans une usine qui sent bon l'oxyde de carbone et que tous les midis à la cantine il mange du poulet aux hormones.
C'est ça, oui, mais c'est tout à fait ça malheureusement.
C'est le bière qu'il faut aller danser le bière.
Mais malheureusement c'est ça et c'est vrai que c'est très très impactant pour la santé. Et voilà, alors moi j'essaie de faire attention, mais malheureusement parfois l'information n'est pas disponible. Mais mais c'est vraiment impactant. Donc bon, c'est dommage parce que les personnes vont peut-être se dire, bah, je fais tout bien pour ma santé et en fait, ça va avoir un effet contre-productif, bah, parce qu'en fait, bah, il y aurait des cochonneries dans le poulet consommé, voire peut-être des additifs, voire peut-être on ne sait pas. Et de fait, alors je parle du poulet, mais il n'y a pas que ça, mais et de fait, ça va pas avoir le même impact sur la santé et peut-être délétère. Donc c'est aussi avec sa traçabilité, on va peut-être prendre conscience et en tous les cas, on va pouvoir se dire, si je consomme quand même ce poulet-là, je le fais en toute conscience. C'est pas juste, j'ai fait l'erreur parce que je ne savais pas.
Après, ça, vous savez quoi, il y a aussi la question du prix. Et aujourd'hui, on le voit, les Français sacrifient leur santé pour des raisons économiques et qu'ils vont privilégier un poulet à bas prix, élevé dans des conditions sur lesquelles on ferme les yeux parce que on n'a plus d'argent, les gens n'ont plus d'argent et c'est soit je mange pas de poulet du tout et je mange des graines, soit je mange un poulet qui malheureusement, donc il y a un vrai problème de santé, c'est un vrai problème de santé publique hein, et économique aujourd'hui.
Alors tout à fait, c'est vrai qu'il y a le problème du prix, après c'est pas toujours le cas, ça peut être effectivement d'aider les gens et quitte à dire, bah, peut-être qu'au lieu d'en manger tous les jours, il vaut mieux en manger deux fois par semaine, 20 fois, mais au moins avoir quelque chose de meilleur pour la santé. Ça peut être, il y a des tas de solutions qu'il faudrait travailler justement pour ça. Ça peut être aussi de trouver des méthodes palliatives. Alors c'est peut-être forcément le terme, mais c'est vrai que les légumineuses, par exemple, sont riches en protéines, etc., en micronutriments. Sauf que si on les consomme tout seul, on n'a pas l'apport. Et les personnes qui sont justement, c'est mes étudiants qui m'ont appris ça parce que bon, bah, ils sont dans le domaine. Les personnes qui veulent être végétaliennes, donc qui veulent plus manger du tout de produits issus d'animaux, bah forcément, bah, en prenant des légumineuses et en les mangeant par exemple avec un peu de légumes et notamment avec des féculents, par exemple du riz, elles vont avoir un apport en protéines qui va être bénéfique comme si, finalement comme quelqu'un qui pourrait éventuellement manger de la viande. Alors c'est pas les mêmes.
Ah, voilà. Dites à vos étudiants attention quand même sur la biodisponibilité. Attention.
Ah non mais justement, ça a été vérifié justement, c'est justement pour la biodisponibilité que les légumineuses, il faudrait les associer à des féculents pour que les personnes puissent bénéficier des protéines. D'accord. Et que ce soit biodisponible.
Alors on embrasse les étudiants. On embrasse vos étudiants, vous en avez beaucoup des étudiants.
Pas mal, voilà. Donc c'est vrai que, et puis j'ai des collègues aussi diététiciens nutritionnistes. Après, bon, je sais qu'il y a un sujet sur ça, mais ça peut être éventuellement de travailler dessus pour justement les personnes qui pourraient pas consommer de la viande. Les légumineuses, peut-être, c'est moins cher, c'est bon pour la santé. Donc trouver des solutions pour qu'elles puissent de manière quotidienne avoir un repas équilibré en apportant à leur corps ce dont il a besoin. C'est surtout ça.
Et, oui. Et alors, dernière question, est-ce que vous savez à quelle heure Roger il sort du bureau?
17h17, un truc comme ça.
18h17. Et est-ce que vous savez où il va?
Au Djerk.
Au club à gogo.
Ah bah c'est vrai. Ah ben j'avais oublié, voilà, ma mémoire me fait défaut. Je dois manquer d'oméga 3.
Allez, merci Célia. On va se retrouver non pas la semaine prochaine. Je pense que non. Il y a les vacances de Pâques qui sont là, mais on va se retrouver très bientôt de toute façon. Merci Célia. Et cette émission, si vous venez d'arriver, vous voulez écouter l'intégralité de l'émission, elle est dispo déjà en podcast sur NutriRadio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir Sonia.
Au revoir Fabrice.
C'est le retour de la musique tout de suite. Restez avec nous sur NutriRadio.
La sphère neuro, Célia Morès sur NutriRadio.